France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
On célèbre cette année les 120 ans de l'année miraculeuse d'Albert Einstein. En 1905, il publie 4 articles révolutionnaires. On poursuit notre feuilleton. Aujourd'hui, deuxième épisode, deuxième article, le mouvement Brownien. Non content d'avoir déjà proposé dans son premier article une nouvelle théorie de la lumière, dans ce second texte, Einstein s'attaque à la matière. Sa théorie du mouvement brownien permet de montrer la nature atomique de la matière, ce qui, en 1905, n'est pas encore reconnu par tous. Il parvient à expliquer cette danse saccadée des particules, comme le pollen dans un fluide, une danse sur laquelle les scientifiques s'interrogent depuis 8 décennies. Comment ce résultat majeur en physique a-t-il révolutionné les sciences ? Einstein, l'année miraculeuse, mouvement brownien, le choc des atomes. Bernard Derrida, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien théoricien, professeur émérite au Collège de France, où vous avez occupé la chaire de physique statistique entre 2015 et 2023. Et Bertrand Duplanté, bonjour. Vous êtes physicien théoricien, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique de l'Université Paris-Saclay, rattaché au CEA et au CNRS. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez à toute heure ou en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous publions pour vous toutes nos sources, toutes nos ressources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment la compréhension du mouvement brownien a-t-elle bouleversé la physique ? Comment et pourquoi Albert Einstein s'est-il saisi de cette question ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, qu'est-ce que ce phénomène ? La question est posée en 1989. C'est notre archive du jour.
La révolution scientifique, donc, aujourd'hui, à propos de l'œuvre d'Einstein, on peut rappeler qu'en 1905, Einstein publie 3 mémoires d'une importance cruciale. La théorie statistique du mouvement brownien, il reste à expliquer peut-être que ce qu'est le mouvement brownien, c'est le mouvement des particules dans un liquide, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On avait observé que quand on déposait des particules très très légères, style grain de pollen à la surface de l'eau, au microscope, on les voyait animer de mouvements désordonnés, apparemment désordonnés. La physique étant la recherche de lois de comportement naturel, on s'est demandé si ces mouvements qui avaient l'air tout à fait aléatoires relevaient d'une description formelle, mathématique. Et justement, Einstein a étudié ce mouvement, notamment, il a participé à l'élaboration du formalisme, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas miraculeux, c'est que les molécules de l'eau sont toutes animées de mouvements, elles ont leur vitesse propre, et les chocs de toutes ces molécules contre les particules très légères produisent un mouvement perceptible de ces particules, alors qu'on ne voit pas le mouvement des molécules d'eau. Bon, ça c'est une description très générale. Einstein est rentré plus dans les phénomènes de diffusion, c'est-à-dire de dispersion d'une molécule qui est initialement d'un point donné à d'autres points d'un liquide. Par exemple, quand vous mettez une goutte d'encre dans un verre d'eau, l'encre diffuse, finalement, le verre d'eau devient uniformément noir ou gris, parce que c'est très atténué. Mmh. Bon, il fallait arriver à trouver la loi de la diffusion, c'est-à-dire à quelle vitesse les molécules s'échappent-elles de ce petit endroit très localisé où on les a déposées initialement, et quelle est la relation entre cette diffusion et le mouvement brownien, donc de ces grains de pollen. Enfin, je schématise, mais c'est vraiment une très très belle analyse. Le travail d'Einstein, de ce point de vue-là, était vraiment fondamental. L'est toujours, d'ailleurs.
Voilà un extrait de l'émission Panorama diffusée sur France Culture en 1989 avec la voix du physico-chimiste Hervé Tisse. Bernard Derrida, pour compléter cette archive, comment résumer le mouvement brownien ?
Ben, le mouvement brownien, déjà, il a été observé, on a cru l'observer depuis Lucrèce, en fait, donc dans l'Antiquité. Alors, il voyait des poussières se déplacer de manière un peu au hasard dans l'espace, et il pensait que c'était dû à des collisions.
En fait, Lucrèce, philosophe et poète latin du 1er siècle avant notre ère.
Mais c'était dû, en fait, à des courants de vent, des petites instabilités. Et le mouvement brownien, ça a commencé à être vraiment observé, surtout par des biologistes au XVIIIe siècle, et ensuite par Brown. C'est lui qui a fait le plus d'expériences. Et au début, il pensait que c'était dû au fait que le pollen, il regardait des grains de pollen, sont des objets vivants. Et donc, il disait qu'un objet vivant, on se déplace. Et en fait, actuellement, en biologie, les gens observent au microscope toutes sortes de bactéries qui se déplacent dans tous les sens. Et donc, ils attribuaient ce phénomène au mouvement de particules vivantes. Et puis, il a continué ses expériences en regardant des objets inanimés. Il a même, enfin, ce qu'on lit dans la littérature, c'est qu'il a même pris des morceaux du grand sphinx, des tout petits morceaux, il les a vus se déplacer de la même façon. Il a étudié la façon dont ça dépendait de la température, de la viscosité du liquide. Et donc, il a fait un peu une étude expérimentale. Et c'est resté assez longtemps inexpliqué. Quand est apparue la théorie le fait que les gaz ou les fluides sont formés de particules qui se déplacent dans tous les sens, cette théorie atomique, les gens ont essayé de réconcilier ce qui avait été observé avec cette théorie. Et en fait, c'est Einstein qui a fait le pont quantitatif, disons, entre une idée souvent physique, on a une idée qualitative de ce qui se passe, mais c'est validé à partir du moment où les mesures permettent de vérifier ce que la théorie prédit.
Donc, on va revenir dans quelques instants évidemment sur l'histoire de l'étude de ce phénomène, mais d'abord Bertrand Duplantier, comment, pour nos auditeurs et nos auditrices, comment se représenter justement cette danse de ce mouvement de particules contenues dans un fluide?
Il existe des enregistrements faits en particulier par des biologistes de petites billes de verre dans l'eau. Et si vous les enregistrez, vous voyez la bille gigoter à peu près dans tous les sens et sans s'arrêter. Et si vous prenez des billes un peu plus grosses, alors en général c'est typiquement un micron, quelques microns, si elle est un peu plus grosse, vous allez voir que ça va être terriblement ralenti. Donc en fonction de la taille de la bille, en fait de son rayon, vous allez voir que la diffusion est ralentie. Et ça se voit vraiment à l'œil nu, modulo évidemment, l'utilisation d'un microscope.
C'est un peu comme suivre cette bille, c'est comme suivre lors d'un match de foot la balle sans voir les joueurs. On a une impression de mouvement incohérent sans en comprendre les raisons. C'est un peu ça ce qui se passe avec le mouvement brownien.
C'est un peu ça, mais on ne voit pas du tout la partie, disons, balistique d'un tir de ballon. Donc quand vous êtes devant le mouvement brownien, vous avez vraiment des changements de direction à tout instant.
On va voir comment Einstein a réussi à formaliser cette théorie. Bernard Derrida, d'abord, comment comprendre le mouvement brownien, étudier ce phénomène, le mouvement brownien d'une particule, qu'est-ce que ça permet de comprendre, justement?
Le but d'Einstein était de comprendre la taille, d'avoir une estimation du nombre d'atomes et de la taille des particules. Donc, il y avait, à la fin du 19e siècle, il y avait des gens comme Boltzmann, Maxwell, qui avaient développé une théorie mécanique de la thermodynamique, hein, puisque les lois de la thermodynamique remontent au début du 19e siècle. Ils concevaient qu'un gaz était formé de particules qui se déplacent dans tous les sens, qui rentrent en collision. Et Einstein, donc, on comprenait la pression, même ça remonte même à Bernoulli qui avait cette idée que la pression d'un gaz est due au fait que la paroi d'un récipient est sans arrêt bombardée par des particules qui se déplacent dans tous les sens. Donc il y avait cette idée, et l'idée d'Einstein là-dessus, c'est de se dire, mais peut-être que ces bombardements vont fluctuer, un petit peu comme quand vous faites un sondage, si vous avez 1000 personnes, vous trouvez le résultat de l'élection à 3 ou 4%, si vous avez 100 000 personnes, vous allez la voir avec beaucoup plus de précision. Eh bien, l'idée d'Einstein, c'était de se dire que, en regardant les fluctuations, par exemple, de la position de la particule brownienne, on allait pouvoir dire combien il y avait d'atomes et donc quelle était la taille des atomes.
On va évidemment parler de cette révolution, hein, comment le mouvement brownien a permis de montrer la nature atomique de la matière. Mais petit retour en arrière, avant Einstein, on vient de le dire, hein, cette notion du mouvement brownien, ça remonte à Lucrèce. Et puis Bertrand Duplantier, on a des biologistes qui se saisissent donc de cette question et qui font différentes observations.
Je peux vous citer une citation de Père Jésuite, qui, en fait, vers les années 1877 ou 1880, ont compris, en fait, ce qui se passait. Et voilà ce qu'ils disent. Alors ça, c'est Delceau. Les mouvements browniens seraient, dans ma manière de considérer le phénomène, le résultat des mouvements moléculaires calorifiques du liquide ambiant. Et ensuite, Carbonel. Dans le cas d'une surface ayant une certaine étendue, les chocs moléculaires du liquide, cause de la pression, ne produiront aucun ébranlement du corps suspendu, parce que leur ensemble sollicite également ce corps dans toutes les directions. Mais si la surface est inférieure à l'étendue capable d'assurer la compensation des irrégularités, il n'y a plus lieu de considérer la pression moyenne. Il faut reconnaître des pressions inégales et continuellement variables de place en place, que la loi des grands nombres ne ramènera plus à l'uniformité et dont la résultante ne sera plus nulle, mais changera continuellement d'intensité et de direction. De plus, les inégalités redeviendront de plus en plus apparentes à mesure qu'on supposera le corps plus petit et par suite, les oscillations deviendront en même temps plus vives, de plus en plus vives. Donc c'est exactement la même idée que Bernard Derrida tout à l'heure. C'est cette idée qu'on a les fluctuations qui vont être observables et en fait mesurables d'après Einstein avec les bonnes quantités.
Ces fluctuations observables, en tout cas le premier à le faire, c'est donc Robert Brown, le prince des botanistes, enfin c'est lui c'est le premier à mener une étude systématique sur ce phénomène, et c'est lui d'ailleurs qui va donner à ce genre de déplacement désordonné le nom de mouvement brownien, Bertrand Duplantier.
Oui, mais effectivement, il y a d'autres personnes, et en particulier quelqu'un au XVIIIe siècle qui s'appelait Ingenhousz, qui a clairement observé le mouvement brownien, qui a créé. Il y a aussi un Français qui s'appelait Brongniart, qui est le petit-fils de celui qui a construit le palais Brongniart, qui, un an avant Brown, en fait, publie un mémoire dans lequel il y a une première observation du mouvement dit brownien plus tard. Et d'ailleurs, Brown le cite dans son article de 1928, il cite Brongniart, mais pour dire qu'en fait, il a lu uniquement l'abstract de l'article de Brongniart. Alors donc, il y a une espèce d'échange entre eux, mais finalement, ça se termine entre gentlemen.
Bertrand Derrida Bernard Derrida, excusez-moi, pardon. Je croyais que vous voyiez hocher de la tête. Je croyais que vous.
Quand on regarde la littérature, en fait, il y a plusieurs autres personnes qui observaient ce phénomène auparavant. Oui. Et bon, la question, c'était de faire une théorie. Et cette théorie, elle a eu du mal à se développer parce que les gens ont essayé de penser en termes de vitesse. D'habitude, on voit se déplacer un objet et on se dit, essayons de mesurer sa vitesse. Et essayons de faire une théorie qui va nous donner cette vitesse. Et en fait, le progrès fait par Einstein a été de ne pas penser en termes de cette vitesse, mais plutôt en termes de déplacement. Et quand on pense au terme du mouvement brownien, tel qu'on le comprend actuellement, en fait, si on voulait vraiment regarder la vitesse serait très très grande et pas du tout compatible avec les prédictions qui avaient été faites au cours du 19e siècle. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Oui. Ça anticipe un peu sur la suite, mais si on prend... Alors, il y a plusieurs descriptions du Brownien. Il n'y aura pas que la description d'Einstein. Il y en a eu des plus fines ensuite, en particulier par Langevin, mais c'est un peu tôt pour en parler. Mais grosso modo, il y a un théorème d'équipartition qui donne une vitesse moyenne carrée à la particule suspendue dans un liquide, la particule brownienne. Et cette vitesse est beaucoup plus grande que ce qu'on peut observer. Et en réalité, c'est parce c'est une espèce de vitesse instantanée qui est immédiatement corrigée par toutes les collisions, qui la diminue énormément par viscosité. Et effectivement, c'est pas la bonne quantité à regarder. Mais c'est instantanément, c'est la vitesse qu'a la particule, mais immédiatement, tout ça est corrigé par ces milliards de collisions.
Mais alors, pour comprendre,
en 10-7 secondes à peu près, dit Einstein.
Pour comprendre justement l'originalité d'Einstein, peut-être aussi qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière, sur la fin du 19e siècle, comment justement ce moment est marqué par l'unification de deux approches différentes de la chaleur. Comment, Bernard Derrida, comment justement le mouvement brownien est-il étudié par les thermodynamiciens du 19e siècle?
Je ne saurais pas trop dire. En fait, les gens comme Boltzmann et Maxwell, ils pensaient que ces fluctuations étaient beaucoup trop petites pour être observées, bien que Maxwell écrit que malgré tout, il y a les lois de la thermodynamique, la deuxième loi de la thermodynamique, ça s'appelle le second principe en français, et cette loi, elle a été établie au cours du 19e siècle, elle dit des choses qui sont presque des évidences dans notre vie quotidienne. Ils disent que si on mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, ça va devenir tiède, et pas l'inverse. Elle dit que si vous êtes à une température donnée, vous n'allez pas pouvoir extraire du travail. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, les centrales à charbon ou nucléaires sont toujours au bord d'un fleuve ou d'une mer pour essayer de se refroidir. Il faut deux sources de chaleur pour extraire du travail. Donc, ils pensaient Maxwell et Boltzmann que c'était inobservable, mais malgré tout, Maxwell disait de temps en temps, on peut, de manière très rare, il peut arriver des phénomènes qui vont violer ce second principe. Et un des arguments qui était contre l'idée atomiste et contre l'idée du mouvement brownien, c'était de se dire si des particules peuvent se déplacer, alors on va pouvoir en extraire du travail. Un peu comme quand vous avez un objet qui est en mouvement, bah, si vous le freinez, vous allez pouvoir extraire un certain travail. Je ne sais pas si le mot travail est familier.
En termes d'effort, d'énergie.
L'énergie qu'on peut extraire du système.
Très bien, Bertrand Duplanté, dans ce contexte, on a aussi...
Oui, pardon.
Je
illustrer ce que vient de dire Bernard par une citation de Poincaré, en 1904, lors d'un congrès des arts et des sciences à Saint-Louis, aux États-Unis. Donc, Poincaré dit... Alors, c'est un peu long, mais il dit, si je peux reprendre, si j'ai le... Mais voici que la scène change. Le biologiste, armé de son microscope, a remarqué il y a longtemps, dans ses préparations, des mouvements désordonnés de petites particules en suspension. C'est le mouvement brownien. Il a cru d'abord que c'était un phénomène vital, mais il a vu bientôt que les corps inanimés, donc ce qu'avait fait Brown, ne dansaient pas avec moins d'ardeur que les autres. Il a alors passé la main aux physiciens. Malheureusement, les physiciens se sont longtemps désintéressés de cette question, un peu comme tu disais. On concentre de la lumière pour éclairer la préparation microscopique, pensait-il. La lumière ne va pas sans chaleur, de la inégalité de température et dans le liquide des courants intérieurs qui produisent les mouvements dont on parle. En fait, ce n'était pas la bonne idée, évidemment. Donc, M. Gouy, donc un physicien français de Lyon, eut l'idée d'y regarder de plus près. Et il vit, ou crut voir, que cette explication est insoutenable, que les mouvements deviennent d'autant plus vifs que les particules sont plus petites, mais qu'ils ne sont pas influencés par le mode d'éclairage. Si alors ces mouvements ne cessent pas, ou plutôt renaissent sans cesse, sans rien emprunter à une source extérieure d'énergie, que devons-nous croire ? Nous ne devons pas, sans doute, renoncer pour cela à la conservation de l'énergie. Mais nous voyons sous nos yeux tantôt le mouvement se transformer en chaleur par le frottement, tantôt la chaleur se changer en versement en mouvement, et cela sans que rien ne se perde, puisque le mouvement dure toujours. C'est le contraire du principe de Carnot, pensait-il. S'il en est ainsi, pour voir le monde revenir en arrière, nous n'avons plus besoin, etc., du démon de Maxwell, donc je passe. Alors, j'essaye de conclure, puisque c'est long. Donc, le corps plus gros, ceux qui ne sont par exemple 1/10 de millimètre, sont heurtés de tous les côtés par les atomes, mais ils ne bougent pas parce qu'il y a la loi du hasard. Mais les particules plus petites reçoivent trop peu de chocs pour que cette compensation se fasse en coup sûr et sans incessamment belloter. Et voilà déjà l'un de nos principes en péril, c'est-à-dire dans son esprit, une violation du second principe dont tu parlais.
Alors, puisque tu parles de Henri Poincaré, en fait, dans la littérature, on parle d'un de ses étudiants qui s'appelait Louis Le Chatelier et qui a fait, mais dans un contexte totalement différent, une théorie du mouvement brownien pour les marchés financiers. Donc la façon dont une action évolue au cours du temps, c'est une espèce de courbe comme ça, très chaotique, ça date de 1900, et en fait, la théorie est la même que pour celle du mouvement brownien.
Et on verra en effet plus tard, un peu plus tard dans cette émission, quelle est la postérité de la théorie d'Einstein. Mais d'abord, comment Einstein s'y est-il frotté ? Qu'apporte-t-il à l'étude du mouvement brownien dans cet article de 1905 ? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, avec Bernard Derrida et Bertrand Duplantier, nous continuons notre feuilleton sur l'année miraculeuse d'Albert Einstein. Nous parlons aujourd'hui de son deuxième article sur le mouvement brownien. On vient de revenir sur l'histoire de cette notion. On vient de rappeler que le mouvement brownien, c'est donc cette caractéristique associée à des particules microscopiques en suspension dans un fluide. Alors à cet article de 1905, Einstein utilise le langage des probabilités pour décrire les observations de Monsieur Brown. Son but à l'époque, Bernard Derrida, c'est vraiment de relier l'existence des molécules à des phénomènes qu'on peut observer directement.
Oui, c'est ces fluctuations dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, Einstein avait écrit un article en 1904 qui s'appelle... il y a un titre allemand, mais en fait ça s'appelle la théorie générale moléculaire de la chaleur, dans laquelle il a écrit des relations dont le mouvement brownien n'est qu'un cas particulier. Et ces relations, elles ont... Enfin, j'ai l'exprimé dans le cadre du mouvement brownien, mais c'est beaucoup plus général. Et elles relient la réponse du système à une certaine force. Donc, par exemple, on a un objet dans un liquide, et quelle va être sa vitesse ou quel va être son déplacement si on lui applique une petite force. Donc ça va être lié à la viscosité, à des propriétés du liquide. Mais enfin, comment la vitesse dépend de la force qu'on applique. Et il a relié ça à la façon dont l'objet bouge par fluctuation en l'absence de toute force. Et le mouvement brownien, c'est quelque chose qui est tout à fait de ce type. C'est-à-dire, il relie des quantités qui ont à voir avec la façon, un coefficient de réponse. C'est-à-dire, il y a la viscosité, en particulier, plus le liquide est visqueux, plus c'est difficile de tirer dessus. Et la façon dont la position d'une particule fluctue. Donc, c'est un cas particulier de cette théorie générale qui, à mon avis, est d'une très grande importance et qui est un article de 1904 d'Einstein.
En tout cas, ce que Einstein écrira dans ses notes autobiographiques, plus tard, il écrit « J'avais pour principal objectif de trouver des faits qui confirmeraient dans toute la mesure du possible l'existence d'atomes de taille finie déterminée. » L'existence des atomes, Bertrand Duplantier, en 1905, on en est où justement ?
Une grande partie des... Enfin, Boltzmann, par exemple, avait une vision atomistique de la physique, Maxwell aussi, mais il y avait d'autres personnes, d'autres physiciens, dont en particulier un chimiste très connu qui a eu le prix Nobel plus tard, qui s'appelait William Ostwald, à qui d'ailleurs Einstein écrit quand, à un certain moment, quand il cherche une position, un poste, sans réponse. Hein. Et lui, Ostwald, ne croyait pas à l'existence des atomes, il avait une vision énergéticiste de la nature continue. Si vous avez une nature continue, il n'y a pas de mouvement brownien. Parce qu'en réalité, vous avez dans ce coefficient de diffusion des particules browniennes que calcule Einstein, qui est donné par le rapport entre la température avec la constante des gaz parfaits divisé par N, le nombre d'Avogadro, le fameux nombre de molécules qu'il y a dans un certain volume à une certaine température. Si ce nombre est infini, vous avez une constante de diffusion qui est nulle. Donc en réalité, s'il y avait dans un milieu totalement continu, il n'y aurait pas de mouvement brownien.
Peut-être qu'on peut revenir un peu ensemble sur justement ce l'importance de ce nombre, la constance d'Avogadro Na, ensemble, Bertrand Duplantier.
Alors, il a une longue histoire. D'après ce que j'ai compris, c'est Perrin qui lui a donné ce nom de nombre d'Avogadro, je crois. C'est quelque chose qu'on accepte maintenant. J'ai regardé la situation du nombre d'Avogadro. À l'heure actuelle, il est fixé arbitrairement. Alors, il est l'ordre de 6 × 10^23 actuellement. Mais après des tentatives de définition physique par des considérations générales, finalement, j'ai l'impression, en 2019, il y a eu un changement de fondement des mesures en physique, et le nombre d'Avogadro est fixé arbitrairement avec un certain nombre de chiffres après la virgule.
Si on veut en avoir une idée, c'est, vous prenez 18 grammes d'eau, combien de molécules d'eau il y a dans 18 grammes d'eau ? Par exemple.
Et c'est le nombre d'Avogadro.
Ou dans 6 grammes de 6 grammes de carbone.
Vous prenez 22 litres 4, comme on apprenait dans le temps, à la pression atmosphérique, à une température, disons, habituelle, et c'est le nombre de molécules que vous avez dans le gaz.
Alors pour Einstein et cet article de 1905, Bertrand Duplantier, comment Einstein s'y prend-il ? Par quoi commence-t-il ?
En fait, c'est justement là qu'il y a quelque chose qui est nouveau, dans lequel il fait un pas, c'est-à-dire qu'il applique la loi des gaz parfaits, en fait, la loi qui était due à Ventov de la pression osmotique, du surcroît de pression que vous avez quand vous avez un soluté dans une solution. La loi des gaz parfaits, quand vous mettez un surcroît de gaz, vous avez un surcroît de pression. Là, on parle de liquide, donc c'est déjà assez hardi de faire ça. Et la loi de Ventov disait qu'il allait y avoir dans une membrane semi-perméable, si vous mettez un soluté, dans une solution, vous allez avoir une pression dite osmotique qui va peser presser les parois. Alors ça, c'est l'idée. Et Einstein dit explicitement dans son article que cette idée de pression osmotique est valide pour des solutés petits comme des molécules de sucre, etc., dans l'eau. C'est le sujet de sa thèse. Mais dans l'article sur le mouvement brownien, il dit que ça va être vrai aussi pour des particules qui seront déjà mésoscopiques de l'ordre du micron comme taille. Et ça, c'est nouveau, cette idée. En fait, il le dit explicitement, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, il donne un argument mathématique fondé sur la loi de Boltzmann dans la première partie de l'article de 1905, où il essaye d'expliquer pourquoi cette pression osmotique donnée par la loi des gaz parfaits pour des particules assez diluées, des particules en suspension assez diluées, va s'appliquer. Et ensuite il applique deux principes pour trouver sa fameuse formule de diffusion.
En fait, la force des propositions d'Einstein, ça provient du fait qu'il utilise des outils de la physique classique, mais pour étudier des phénomènes en dehors du cadre initial, Bernard Derrida.
Oui, enfin, il y a deux aspects. Il y a l'aspect donc réponse, les propriétés comme la viscosité, qui sont des propriétés de la physique classique.
L'hydrodynamique. Oui.
Par ailleurs, il a utilisé cette idée de l'entropie en fonction des paramètres d'un système, la façon dont l'entropie dépend des paramètres d'un système, pour penser en termes de fluctuations. C'est-à-dire que normalement, le système se trouve dans l'état d'entropie maximum, et si on s'écarte un petit peu, on a des événements un peu moins probables, et donc l'aspect probabiliste apparaît à partir de l'entropie de Boltzmann.
Bertrand Duplantier.
Oui, alors je reviens sur cette idée dont je complète un petit peu ce que disait Bernard. Cette idée de pression osmotique, en fait, il a deux équations dans sa première dérivation, avant de trouver le déplacement quadratique moyen. Il va regarder, il y a une relation, donc c'est effectivement d'hydrodynamique avec la relation de Stokes, qui vous dit, quand vous poussez sur une sphère dans un fluide, quelle est la force que vous allez engendrer. Donc, il imagine une petite force fictive qui déplace les particules, qui donc crée un accroissement de densité de particules broniennes, dites broniennes, et il compense cette croissance, donc ça crée une pression osmotique, et une variation de pression osmotique, et cette pression osmotique compense la force. Et dans un deuxième temps, il utilise ce qu'on appelle l'équation de diffusion de Fick, qui datait de la milieu du 19e siècle, pour relier le flux de particules qui sont poussées par cette force fictive, le flux de particules browniennes, avec la vitesse de ces particules sous l'effet de la force. Et avec ces deux équations, il trouve sa fameuse relation qui donne le coefficient de diffusion en fonction de la température et du nombre d'Avogadro, de la viscosité de la solution et de la taille de la particule. Formule dite d'Einstein.
Dans une conférence donnée en 1910 que vous avez traduit à Bertrand Duplantier, Einstein propose justement, comme le fera Perrin plus tard, de regarder la répartition des particules dans une colonne, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, c'est une troisième démonstration de la formule d'Einstein, du mouvement brownien. Il prend une colonne de particules en suspension qui vont obéir un peu comme la distribution de pression dans l'atmosphère, c'est-à-dire que ça va décroître exponentiellement avec l'altitude. Et il utilise il fait la remarque suivante, il dit une particule un peu plus lourde un peu plus dense que l'eau doit tomber au fond. Si elle ne tombe pas au fond, c'est qu'en fait, elle est continuellement heurtée par les molécules d'eau, qui la heurtent avec un mouvement brownien vers le haut, vers le bas, et il fait le bilan entre la chute par gravité et les petites impulsions browniennes dans les deux sens. Il écrit une équation en disant que le système est statique, ne bouge pas, enfin, disons, est statique à l'équilibre, et de cela, il retrouve sa formule brownienne. Et c'est la formule, la dérivation la plus simple que je connaisse de cette formule.
Ça lui permet de mesurer, de prédire le nombre d'Avogadro qui prend une valeur 6,8 10 puissance 23 au lieu de la valeur actuelle qui est 6 10 puissance 23. Donc c'est à peu près 10-15%, enfin 10%, oui. La bonne valeur. Quoi.
C'est aussi donc de cette façon qu'il parvient à expliquer donc la diffusion d'une goutte d'encre dans de l'eau. La répartition des molécules colorées s'explique par les collisions avec les molécules d'eau, c'est ça ?
Oui.
Alors, c'est pas le seul, à ce moment-là, à cette époque, à parvenir à de tels résultats, hein, Bernard Duplantier, pardon.
De résultats, vous voulez dire
Par rapport au mouvement brownien, et par rapport... Bon, c'est une méthode différente, mais on peut évoquer le physicien polonais Marianne von...
J'oubliais Smoluchowski. Oui, tout à fait, vous avez absolument raison. Smoluchowski publie un article, juste un peu après Einstein. Il trouve la même formule de diffusion d'Einstein, alors qu'Einstein, donc, mais avec un coefficient différent qui est 4 tiers à la puissance 3, c'est-à-dire 64 sur 27. Paul Langevin, dans son fameux article qui va apparaître en 1908, dit « Ah, il y a des approximations chez Smoluchowski, parce qu'en réalité, il fait une théorie cinétique de collision de la grosse particule brownienne avec des petites molécules d'eau, avec des approximations géométriques, et il trouve la même formule qu'Einstein, mais avec un coefficient différent. » Et donc Langevin dit « Ah, si on corrige ces approximations, on trouve la formule d'Einstein sans donner la manière de le faire. » Quand vous regardez l'article de Smoluchowski, c'est très compliqué. Mais en fait, Smoluchowski ensuite admet que la formule d'Einstein est la bonne. Mais effectivement, il a une description parallèle à celle d'Einstein, oui, indépendante.
Bernard Derrida ?
Enfin, la formule, comme je disais, la formule pour le mouvement brownien, c'est un cas particulier des formules d'Einstein qui datent de 1904. Il se trouve que la façon dont c'est dérivé fait un certain nombre d'approximations. Mais la formule, en fait, elle est tellement générale qu'elle est vraie malgré les approximations qui ont été faites. Je trouve ça tout à fait remarquable.
Même la formule de Stokes, il n'était pas du tout évident que cette formule de Stokes, qui était pour une sphère parfaite dans un liquide, avec friction nulle sur le bord, allait s'appliquer à des granules de forme irrégulière, etc. Donc tout ça, c'est assez hardi de la part d'Einstein. Mais effectivement, les formules, à la fin des fins, elles sont, disons, gravées dans le marbre.
Comment Jean Perrin va-t-il confirmer de façon expérimentale la théorie du mouvement brownien d'Einstein ? Restez à l'écoute, on y arrive. Hello, Mr. Brown. Rien ne vous étonne. De Londres à Paris, l'avion. Petula Clark, hello Mr. Brown en direct sur France Culture, car nous parlons du mouvement brownien, la théorie d'Einstein. On en parle avec nos deux invités du jour, Bernard Derrida, physicien, théoricien, professeur émérite au Collège de France, et Bertrand Duplantier, physicien théoricien, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique de l'Université Paris-Saclay, rattaché au CEA et au CNRS. On vient de voir comment Einstein justement a formalisé le mouvement brownien à partir de... Enfin, il l'a formalisé donc en 1905. En 1908, Jean Perrin voulait démontrer justement l'existence des atomes. Il va faire une série d'expériences. Il étudie des émulsions qui contiennent des particules. Est-ce que je peux vous demander, Bertrand Duplantier, de nous décrire les différentes expériences que va mener Jean Perrin ?
Oui, alors il commence par en fait une expérience sur la distribution dont on a parlé tout à l'heure, des particules en suspension dans une colonne cylindrique et de variation de cette densité avec la hauteur. Cette variation de densité, c'est la même que pour la pression atmosphérique actuelle pour nous, ça décroît exponentiellement avec la hauteur. C'est ce qui passe quand vous êtes en avion, vous avez une pression beaucoup plus basse, de 30% plus basse, même dans l'avion. Et donc il vérifie cette loi exponentielle, et dans cette loi exponentielle, en fait, se trouve nichée l'énergie cinétique moyenne donnée par l'équipartition de l'énergie, c'est-à-dire le 3,5 de RT sur N, où N est le nombre d'Avogadro une fois de plus. Et donc il a cette quantité dans ses données expérimentales, il en extrait donc une première valeur du nombre d'Avogadro. Ça, c'est la première expérience qu'il fait. Donc, c'est publié dans un mémoire qui s'appelle « Mouvement brownien et réalité moléculaire ». Alors, évidemment, vous retrouvez tout ça dans son livre « Les atomes » plus tard. Alors, la deuxième expérience, il charge certains de ses étudiants de regarder la manière dont, justement, cette diffusion, c'est-à-dire ce dont parlait Bernard tout à l'heure, à savoir le déplacement carré moyen d'une particule en fonction du temps. Donc, ils sont capables de voir que, effectivement, le déplacement carré moyen croît avec le temps, avec une constante de diffusion qui est donnée par la formule d'Einstein. C'est le deuxième type d'expérience qu'il fait. Et le troisième type d'expérience, il charge encore un de ses étudiants de regarder la distribution dans un plan orthogonal à la gravité, la distribution de particules, et en particulier, si vous savez qu'une particule au temps zéro est à la position zéro, l'origine, vous avez, d'après Einstein, une certaine loi de distribution dite gaussienne qui vous donne la probabilité que vous la trouviez à une certaine distance au bout d'un temps t, qui est donnée par l'exponentielle de la gaussienne, moins le carré de la distance divisé par le temps. Et donc, ça, c'est une prédiction d'Einstein, c'est un calcul d'Einstein dans l'article de 1905. Et en fait, il vérifie bien cette distribution gaussienne avec des rayons successifs. Il regarde combien il y a de particules. Il trace des cercles et compte le nombre de particules dans ces cercles successifs. Et il trouve bien une vérification de la loi d'Einstein. Et là encore, dans le coefficient, il y a le nombre d'Avogadro.
C'est ça, ces expériences prouvent l'exactitude et la rigueur de la formule d'Einstein. Ça confirme de façon éclatante la théorie atomique.
Oui, eh bien, oui, bien sûr, quand on en a parlé tout à l'heure.
Oui. Sinon, les particules tomberaient au fond, il voilà. n'y aurait rien pour voilà. les
Si vous prenez des billes de métal, elles vont au fond. Voilà. Elles sont trop lourdes, elles restent au fond.
Ça, c'est que le fait que des particules restent en suspension, ça montre l'existence d'une agitation thermique qui ne peut être que d'ordre moléculaire. Très bien, avec les expériences de Perrin, l'existence des molécules et des atomes éprouvées, c'est le triomphe de la théorie atomique. Voici un extrait du fameux ouvrage « L'atome » paru en 1913. La théorie atomiste a triomphé. Nombreux encore naguère, ses adversaires enfin conquis renoncent l'un après l'autre aux défiances qui longtemps furent légitimes et sans doute utiles. C'est au sujet d'autres idées que se poursuivra désormais le conflit des instincts de prudence et d'audace, dont l'équilibre est nécessaire au lent progrès de la science humaine. Mais dans ce triomphe même, nous voyons s'évanouir ce que la théorie primitive avait de définitif et d'absolu. Les atomes ne sont pas ces éléments éternels et insécables dont l'irréductible simplicité donnait au possible une borne, et dans leur inimaginable petitesse, nous commençons à pressentir un fourmillement prodigieux de mondes nouveaux. Ainsi, l'astronome découvre, saisi de vertige, au-delà des cieux familiers, au-delà de ces gouffres d'ombre que la lumière met des millénaires à franchir, de pâles flocons perdus dans l'espace, voies lactées démesurément lointaines, dont la faible lueur nous révèle encore la palpitation ardente de millions d'astres géants. La nature déploie la même splendeur sans limite dans l'atome ou dans la nébuleuse, et tout moyen nouveau de connaissance la montre plus vaste et diverse, plus féconde, plus imprévue, plus belle, plus riche d'insondable immensité. Voilà, l'atome en 1913 par Jean Perrin, qui reçoit le prix Nobel de physique en 1926 pour son travail sur le mouvement brownien. Bertrand Duplantier, on peut aussi ajouter et évoquer la géométrie du mouvement brownien.
Oui, en fait, il est le premier, apparemment, à s'intéresser à la géométrie du mouvement brownien. On voit dans son livre, on voit un enregistrement des diverses positions d'une particule brownienne au cours du temps, et on voit qu'il trace un segment qui rejoint deux positions successives, toutes les 30 secondes. Et on voit que ces segments partent dans toutes les directions. Et il parle de l'impossibilité de tracer une tangente à cette trajectoire. Il dit, on ne peut même plus fixer une tangente, même de façon approchée, à aucun point de la trajectoire. Et c'est un cas où il est vraiment naturel de penser à ces fonctions continues, sans dérivées, que les mathématiciens ont imaginées, en particulier une fonction dite de Weierstrass, qui était comme ça, et qu'on le regarderait à tort comme de simples curiosités mathématiques, puisque la nature les suggère aussi bien que les fonctions à dérivées. Fonctions à dérivées sont les fonctions naturellement douces, dont les trajectoires sont douces.
Ça a été formalisé par un mathématicien Wiener. Hein, et donc, pour les mathématiciens, en fait, souvent, ils ne parlent pas de mouvement brownien, mais de processus de Wiener. Et donc, c'est une courbe, mais sans aucune, il n'y a aucune tangente. Donc, il n'y a que des points anguleux le long de cette courbe.
Oui. Mais on doit rajouter que Wiener était allé à Cambridge, qu'il avait croisé Bertrand Russell, qui lui a dit... qui s'intéressait donc à la logique, mais il a conseillé à Wiener d'aller lire Einstein. Il a lu Einstein et Perrin, et Wiener ensuite a essayé de construire la première théorie mathématique du mouvement brownien, en partant d'ailleurs de la distribution gaussienne de positions successives, et ensuite, entre deux instants, et on faisait ensuite tendre les intervalles de temps vers zéro, et ensuite en créant une espèce de mesure, dite mesure de Wiener, oui.
Alors, quelle a été la portée des travaux d'Einstein par la suite? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Bernard Derrida et Bertrand Duplantier, nous parlons du mouvement brownien qui a été la théorie d'Einstein. Alors ce mouvement brownien concerne des particules de petite taille et pour cette raison, il a longtemps été difficile à observer à de très petites échelles. Il existe aujourd'hui des techniques qui permettent de suivre le mouvement brownien de petits objets. Comment ? C'est le sujet du reportage du jour et c'est avec vous, Ali Ruyer-Thompson. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous vous êtes rendu à l'Institut de la Vision dans l'équipe de microscopie 3D pour découvrir le procédé d'holographie, une méthode qui permet, entre autres, d'enregistrer le mouvement brownien de nanoparticules.
Tout à fait. Et j'ai rencontré deux chercheurs, Gilles Tessier, qui est professeur de physique à Sorbonne Université, et Pascal Berthaud, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Cité et membre de l'Institut Universitaire de France. Ils utilisent tous les deux des dispositifs d'holographie pour sonder la matière à très petites échelles. En jouant sur l'interférence entre deux faisceaux laser, cette technique permet ici de mesurer la position de particules nanométriques dans l'échantillon étudié, par exemple un tissu biologique. En raison de leur petite taille, ces particules se déplacent de manière brownienne. Gilles Tessier et Pascal Berthaud m'ont donc présenté des montages qui exploitent ce mouvement pour caractériser les nanoparticules en question ou bien le fluide qui les entoure.
Alors d'abord on est sur une table optique, c'est-à-dire quelque chose qui est très très stable, hein, l'holographie c'est très sensible aux vibrations. Il y a beaucoup de miroirs pour diriger le faisceau, mais en réalité la trajectoire n'est pas si complexe. Donc on a un faisceau ici qui vient illuminer par le dessus notre échantillon. Et une autre partie, donc ce cube ici sert à séparer le faisceau en deux faisceaux. Et donc l'autre partie du faisceau ici va être envoyée directement dans le microscope et sur la caméra sous la forme d'une onde plane, donc vraiment une illumination assez uniforme de la caméra. Les deux se mélangent, interfèrent, et c'est ça l'hologramme qu'on va enregistrer numériquement.
Très bien. Et alors, quels sont les objets que vous observez avec cette technique ?
Donc, on observe de tout petits objets, essentiellement des objets métalliques, mais pas seulement. Donc, des nanoparticules qui font quelques dizaines de nanomètres de diamètre et qui sont donc, à ces tailles-là, en mouvement brownien, puisqu'on les utilise essentiellement dans des liquides. Alors, malheureusement, en optique, l'image d'un tout petit objet, c'est une grosse tache. C'est ça qui limite la résolution des microscopes optiques. Donc, quoi qu'on fasse, un objet de 10 nanomètres va nous donner une image qui va être une tache de plusieurs microns, typiquement. Et donc, c'est avec cette grosse tache qu'on va devoir travailler, malheureusement. Donc, ces hologrammes qu'on enregistre, on va, sur ordinateur, les reconstruire pour obtenir des images 3D. Et ensuite, pour chacune des tâches qui représentent la présence d'une particule, on va calculer le barycentre, de manière à pouvoir dire la particule est ici, au centre de cette grosse tâche. Chacune de ces particules, on est capable de pointer donc le barycentre de la tâche de diffraction qu'on mesure. Et ça, on va pouvoir le faire à assez haute cadence, finalement, en utilisant une caméra un petit peu rapide. Donc, on va vraiment faire un suivi, un tracking de la particule et de son mouvement quasiment en temps réel.
Ce qu'on appelle le mouvement brownien.
Exactement.
Et quel est l'intérêt ? Quelles sont les applications de ces détections du mouvement brownien ?
Alors, pour nous, il y en a essentiellement deux. Soit on cherche à caractériser la particule elle-même, et ça, c'est des choses qui vont intéresser des chimistes, par exemple, avec lesquels on collabore, qui fabriquent ces particules. Soit on se sert de la particule comme une sonde de son environnement. Et avec ça, on va mesurer typiquement la viscosité ou bien la quantité de lumière qui est présente à l'endroit où se trouve la particule. Sur cette expérience-là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le milieu qui environne la particule. Et donc, on s'en est servi de deux manières. Donc, la première, c'est d'aller mesurer combien de lumière il y a dans le milieu, et ça en trois dimensions. Et donc, on va laisser très volontairement la particule se déplacer en mouvement brownien de manière aléatoire. Et toute l'idée, c'est que si on laisse suffisamment de temps à la particule, elle va se déplacer aléatoirement, elle va finir par explorer tout le volume qui nous intéresse. Et donc, en suivant la trajectoire de la particule et en mesurant la quantité de lumière qu'elle diffuse, on a vraiment une image très très précise de la quantité de lumière et sa localisation en 3D. Ça, c'est une première application. Et l'autre application pour mesurer, c'est de mesurer la viscosité des milieux. Donc pour ça, on se sert de bâtonnets, qui vont donc tourner, parce que le mouvement brownien, il ne faut pas oublier que c'est une translation latérale de l'objet, mais c'est aussi une rotation. Et donc ça va se traduire par un clignotement. Les bâtonnets vont être peu lumineux s'ils sont orientés face à nous et plutôt fortement diffusants s'ils sont perpendiculaires. Et donc mesurer ce clignotement, ce qu'on sait faire par holographie aussi, ça nous donne une information sur la rotation du bâtonnet. Si cette rotation est rapide, ça veut dire que le bâtonnet est dans un milieu qui est très fluide. Et au contraire, si la rotation est lente, c'est que le milieu est visqueux. Et donc en mesurant cette cadence de clignotement, on a accès à une mesure de la viscosité à l'endroit précis où se trouve le bâtonnet.
Et donc là, on a une expérience qui est vraiment très similaire. Également sur une table optique, c'est un montage holographique qui est très proche. La différence, c'est qu'ici, on ne va pas venir essayer donc, d'exploiter le mouvement brownien, mais on va essayer de le combattre. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est analyser la composition chimique d'une nanoparticule. Le problème, c'est que les particules donc, sont généralement en solution, donc en mouvement brownien. Et mesurer donc, un signal spectroscopique d'une particule qui est en mouvement, ben, c'est compliqué. On peut s'imaginer essayer de lire donc, par exemple une inscription sur une balle de ping-pong qui est en mouvement. Et donc, l'astuce qu'on a trouvée, en fait, c'est d'exploiter donc, une localisation holographique. Et grâce à cette information de position, on va venir stabiliser la particule. Ce qu'on a trouvé, c'est de venir stabiliser son image via le jeu donc, de miroir et de lentilles qu'on voit ici juste derrière, là. Et de manière donc, à rediriger finalement le signal de la particule vers l'entrée d'un spectromètre.
Juste sur la spectroscopie, donc, l'idée c'est d'envoyer de la lumière blanche sur la particule et de regarder quelles sont les composantes qui sont diffusées par la particule. Est-ce que ce sera plutôt du rouge, plutôt du vert? Et ça va nous donner une indication à la fois sur la composition chimique et sur la taille de la particule. Et c'est cette information-là qui intéresse les chimistes.
Et on peut même venir sonder finalement la présence d'une molécule qui viendrait s'attacher donc, sur cette particule.
Finalement, une des informations utiles quand on a la trajectoire d'une particule, comme on arrive à le faire donc en holographie de manière rapide, c'est qu'on peut en fait mesurer la taille de la particule. L'idée, c'est qu'une petite particule va avoir un mouvement brownien qui est assez rapide, alors qu'une grosse particule va avoir tendance à se déplacer plutôt lentement. Et donc, dès qu'on a accès à la trajectoire, en faisant un petit peu de statistiques sur cette trajectoire-là, on arrive tout à fait à remonter sur la taille ou le rayon hydrodynamique, c'est-à-dire l'encombrement finalement de la particule. Donc, bien qu'on ne soit pas capable, parce que c'est l'optique, on est limité en résolution, bien qu'on ne soit pas capable de voir la particule elle-même, on a quand même une information très très riche grâce à cette trajectoire, grâce à son spectre, qui nous permettent de remonter à des caractéristiques à toute petite échelle de la particule elle-même.
Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de la viscosité du milieu dans lequel la particule se déplace ?
Absolument. Donc il faut connaître la viscosité pour avoir la taille, ou le contraire, il faut connaître la particule pour avoir la viscosité. Absolument.
Thompson pour ce reportage. Bertrand Dupontier, une réaction à ce qu'on vient d'écouter?
Oui, c'est un reportage assez, assez riche, vraiment riche. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont parlé un moment du mouvement de rotation brownien, des petites particules, des petits bâtonnets. Et en fait, la première personne à avoir calculé la rotation, les variations quadratiques d'angle de rotation d'une bille, c'est aussi Einstein, dans son deuxième article. Non pas celui que vous avez cité, qui était la thèse, mais le troisième article, en fait, de 1906, où il calcule la même formule de diffusion pour la rotation d'une bille, et qui, en pensant que ça sera très difficile à mesurer, parce qu'elle décroît comme le cube de la taille, et non pas comme la taille pour la diffusion translation, mais en fait, Perrin sera capable de la mesurer pour des grosses billes, ils seront aussi capables de mesurer la formule d'Einstein pour cela.
Bernard Derrida, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de ce reportage?
C'est-à-dire que là, il parle de particules qui sont tellement petites, contrairement à ce qu'on évoquait dans le cas du mouvement brownien observé par Brown. Là, les particules ne sont pas observables du tout à l'œil nu, même au microscope. Et donc, ils utilisent des méthodes optiques pour détecter où se trouvent les particules. Maintenant, le mouvement brownien, il est observé tous les jours dans beaucoup d'autres situations, et même, évidemment, pour des objets vivants. Donc, j'en parlais récemment avec un collègue et qui me disait que dès qu'on regarde des bactéries qui se déplacent avec des flagelles dans des solutions, bah, ces bactéries changent de direction de manière aléatoire. Et quand on les observe sur une période un peu longue, ça, on observe quelque chose qui est tout à fait semblable au mouvement brownien.
Une grande partie de la biologie fonctionne grâce au mouvement brownien. Toutes les interactions se font au hasard en réalité.
C'est ça, c'est une...
Avec affinité, mais en fait, pour le déplacement, ça se fait au hasard.
Une bactérie, le déplacement d'une bactérie avec ce mouvement brownien, on peut aussi penser à l'ensemble des trajectoires par branchement. Ça peut s'appliquer aux transmissions virales également.
Ça, je ne sais pas.
Ou Bernard Derrida.
Il y a un sujet qui s'est beaucoup développé, en fait, depuis les années 30, mais qui est très actif actuellement, ce qui s'appelle le mouvement brownien branchant. Donc maintenant, on imagine que le mouvement brownien, ça peut être la trajectoire d'un virus qui passe d'un individu à un autre. Donc il va se déplacer de manière aléatoire, mais le virus, il a en plus comme propriété de se répliquer. Et donc, si on imagine un mouvement brownien où de temps en temps la particule se dédouble ou se multiplie, et ce qui donne lieu à plusieurs mouvements browniens qui se déplacent, eh bien c'est un domaine qui mathématiquement a été beaucoup étudié ces derniers temps et qui a beaucoup d'applications, en particulier pour la façon dont les maladies ou d'autres propriétés initialement se répandent dans la population. Initialement, c'était pour les premiers articles, c'est pour savoir comment un gène favorable se répand dans une population. Si vous avez une mutation, la mutation fait que les individus qui sont porteurs de cette mutation se reproduisent un peu plus vite que les autres, et petit à petit, entre le mouvement brownien des individus et cet avantage sélectif, eh bien, ça envahit toute une région.
Bertrand Duplantier, ce mouvement brownien, on le retrouve aussi quand on étudie les polymères.
Ah oui, alors ça, c'est un autre aspect des choses. On peut, la première approximation, les chaînes polymères sont faites d'agrégations de maillons. Ce sont des chaînes linéaires, en général. Et donc, ça a été beaucoup étudié à partir des années 40. Ensuite, dans les années 80, en France, il y a eu le fameux prix Nobel de Degenne pour ses études sur les polymères. Et la première idée, à l'origine, pour les polymères, était de considérer que la longue chaîne dans un solvant, en fait, réalisait la trajectoire d'un mouvement brownien. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait une particule brownienne et qu'on matérialisait sa trajectoire. Ça, c'était le premier modèle, le modèle donc de chaîne brownienne. En réalité, il y a des interactions dites de volume exclu. La chaîne aime bien être en contact avec le solvant. Ça donne une espèce d'interaction répulsive effective de la chaîne avec elle-même. Donc, un problème beaucoup plus compliqué à traduire. Et ça, ça a été le sujet de beaucoup d'études de physique théorique dans les années 70-80, qui ont culminé avec le prix Nobel de Degenne. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ces détails parce que c'est la modification du mouvement brownien dans un modèle dit d'Edwards qui modifie la mesure de Wiener par une interaction spécifique le long de la chaîne.
On voit en tout cas un intérêt toujours vivace pour le mouvement brownien. Bernard Derrida, de façon générale, d'ailleurs depuis les années 50, l'étude des propriétés fines de ce mouvement, ça le place au centre de nombreux domaines mathématiques.
Oui, absolument. En fait, très souvent, quand on essaye de décrire les propriétés d'un système et ses fluctuations, on n'est pas capable, du point de vue mathématique, d'aller suivre la trajectoire de chacun des atomes qui constituent cet objet. Et donc, pour prendre en compte les fluctuations, souvent, on ajoute dans les équations de Newton des termes qui vont représenter l'effet de toutes ces fluctuations à l'échelle microscopique. Et les termes qu'on rajoute sont des mouvements browniens qui représentent un peu les fluctuations à l'échelle microscopique.
Oui, nous avons passé sous silence la contribution de Langevin, qui était un ami de Perrin, et qui a effectivement créé le premier modèle statistique où il a rajouté un terme de force stochastique aléatoire qui simulait les collisions, en particulier en une dimension, les collisions des molécules d'eau. Et c'est un système qu'on peut résoudre assez facilement. On peut enseigner ça au niveau d'un M1, je dirais, et on apprend énormément de choses sur le mouvement brownien lui-même, parce que c'est un très très bon modèle mathématique qui donne finalement beaucoup accès à beaucoup de choses. Évidemment, il y a aussi une descendance mathématique fantastique au mouvement brownien en probabilité.
Et puis on n'a pas évoqué Louis Bachelier qui utilise aussi le mouvement brownien pour modéliser l'évolution des cours des bourses. L'heure est passée vite, on arrive à la fin de cette discussion. Donc merci Bernard Derrida, merci Bertrand Duplantier. Tout de suite on change complètement de sujet avec une nouvelle méthode pour activer un médicament grâce à de la lumière. C'est la chronique avec science d'Alexandre Morales.
Comment cibler l'action des molécules thérapeutiques ? Ingérer un médicament, ça n'est jamais anodin et les fabricants nous mettent en garde. Vous savez, il y a toujours ce petit dépliant qui liste les risques et les effets secondaires du traitement. Lorsque vous avez mal à la tête et que vous prenez un Doliprane, le médicament le plus prescrit en France, eh bien la molécule de paracétamol contenue dans la gélule est d'abord absorbée dans votre estomac, puis diffuse dans tout votre organisme, notamment le cerveau, où elle aura l'effet antalgique escompté. Et ce manque de spécificité, c'est un problème, c'est l'une des causes des effets secondaires qui peuvent être dangereux pour certains médicaments. Parfois, c'est particulièrement problématique, comme pour les traitements des cancers qui visent à stopper la division cellulaire des tumeurs. Évidemment, dans ces cas-là, on cherche à cibler au mieux les cellules cancéreuses, mais c'est très difficile. Une publication parue dans Nature Communications dévoile une nouvelle méthode qui pourrait bien être une solution à ce problème de spécificité. Monica Gotha est professeure au département de physiologie cellulaire et métabolisme à l'Université de Genève. Elle est la dernière autrice de cette publication.
Notre étude est partie de cette question. On voulait inhiber la division cellulaire, mais seulement où on veut et quand on veut. Et on a pris une molécule qui est déjà sur le marché depuis longtemps et qui avait effectivement été développée aussi comme médicament pour les cancers, pour arrêter la division cellulaire des cancers. Mais cette molécule, vu qu'elle va agir aussi ailleurs, elle est effectivement très toxique. Mais du point de vue de la recherche, c'est très utile. Nous, on peut l'utiliser au laboratoire pour étudier la division cellulaire. C'est un inhibiteur d'une kinase qui s'appelle PLK1 et qui est très important pour la division cellulaire dans beaucoup d'organismes, y inclut l'être humain. Donc, on a modifié cette molécule, cet inhibiteur, à deux endroits différents. Et ces modifications nous permettent de faire deux choses. Une, c'est d'activer la molécule quand on veut, avec la lumière. Et en même temps, avec la lumière, on va modifier cette molécule de façon qu'une fois qu'elle est activée, elle reste où elle est. Donc, elle ne va pas diffuser ailleurs, dans d'autres cellules aussi.
L'usage de la lumière en biologie fondamentale n'est pas une première. Et ici, Monica Gotha et son équipe ont transformé la molécule inhibitrice de la protéine PLK1 pour en rendre l'activation et surtout l'ancrage dans une cellule précise dépendant d'une exposition à la lumière. Pour faire ça, ils se sont servis de la coumarine, un composé sensible à la lumière et naturellement présent dans certaines plantes. En fait, ils ont fixé cette coumarine à deux endroits sur la molécule inhibitrice de PLK1. D'abord sur le site actif de la molécule, de manière à la rendre inactive lorsque la coumarine y est attachée, et aussi sur un second site où elle n'a pas d'effet quand elle est accrochée, mais lorsqu'elle s'en détache, elle modifie la molécule d'intérêt et lui donne une charge électrique négative. Dès lors, la molécule inhibitrice de PLK1 chargée électriquement ne peut plus traverser les portes des cellules et reste bloquée à l'intérieur. Le grand intérêt de cette méthode, c'est donc qu'en une seule pulsation de lumière, on peut détacher ces deux coumarines en même temps et activer l'inhibiteur de PLK1 tout en l'empêchant de sortir de la cellule où il a été illuminé.
Vraiment, ce travail est la collaboration entre nous qui sommes des biologistes cellulaires et des chimistes. Et c'est qu'en discutant entre nous et avec cette collaboration qu'on peut arriver à faire certaines choses. Et la deuxième chose qui est intéressante et qui, justement, c'est pour ça que ce n'est pas le traitement d'aujourd'hui ou de demain, mais peut-être d'après-demain, c'est que la lumière, elle ne pénètre pas suffisamment à l'intérieur de notre corps. Donc, il faut trouver des façons d'amener la lumière où on veut. Par exemple, j'ai vu une étude où ils ont développé une aiguille très fine qui permet pas seulement d'injecter un médicament où on veut, mais qui permet aussi de faire passer la lumière à travers cette aiguille pour illuminer les médicaments. Mais ça, ce n'est pas encore utilisé en médecine.
Comme souvent en science et a fortiori en biologie, il s'agit d'une découverte réalisée dans le cadre de recherches fondamentales, ici sur le cycle de vie des cellules, mais qui pourrait bien avoir des conséquences médicales très concrètes. Celles et ceux qui ont côtoyé de près le cancer savent à quel point les traitements sont lourds et dévastateurs pour les patients. Mais avec ce type de technologie, on peut imaginer pour le futur des soins très localisés. On pourrait attaquer des tumeurs en préservant au maximum l'environnement cellulaire et la santé des patients.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Bouchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.